les visiteurs qui sont parmi nous, soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Il faut baisser un petit peu là. Ça fait de l'écho. On va lire un texte dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2 et au verset 5. Voilà, épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Voilà, ce passage que nous venons de lire relate ce que nous pourrions appeler le parcours qu'a suivi le Seigneur Jésus-Christ depuis son abaissement volontaire, puisqu'il a quitté son ciel, jusqu'à son élévation suprême dans les lieux célestes. Et en fait, on peut dire que la carrière de Jésus, si je puis m'exprimer ainsi, a suivi quatre étapes. D'abord, il y a eu la crèche. La crèche, eh bien, nous parle de son incarnation, Dieu qui s'est fait homme. Puis, il y a eu la croix. La croix nous parle de son expiation. Jésus a subi la peine de nos péchés pour nous offrir le salut. Puis, il y a eu la tombe qui nous parle de sa résurrection parce qu'il a vaincu la mort. Jésus est vivant. La tombe est vide. Et enfin, la quatrième, ultime étape, eh bien, c'est le trône qui nous parle de sa glorification. Jésus règne dans les cieux. Alléluia. Et ce matin, eh bien, si vous voulez bien, nous nous attarderons plutôt sur le quatrième aspect, la quatrième étape de son parcours, et nous aborderons ici la question du ministère actuel et du ministère céleste du Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, c'est la période de Noël, et les enfants, les moniteurs, pour ceux qui étaient là dimanche passé, ont développé ce thème, et nous les en remercions encore, là, la crèche est dressée, et nous voulons nous rappeler, c'est vrai que Jésus est venu du ciel sur la terre, comme nous le proclamons dans l'un de nos cantiques, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, les choses n'en sont plus là, Jésus est dans les cieux. Et nous pourrions être en droit de nous poser la question suivante, mais que fait-il depuis qu'il est retourné au ciel, auprès de son Père? Quel est son ministère actuel? Quelles sont les fonctions qu'il exerce? Eh bien, c'est là ce que nous allons essayer de voir quelque peu, ou d'entrevoir ce matin, avec l'aide du Seigneur et sa parole. D'abord, du haut de son ciel, Jésus envoie le Saint-Esprit sur ses disciples. Amen. Jean-Baptiste avait dit, lui, parlant de Jésus évidemment, lui vous baptisera du Saint-Esprit. Quant à Jésus lui-même, avant de retourner vers son Père, d'être élevé dans la gloire, il dira, on trouve ces textes dans le livre des Actes, voici, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit, et il ajoutera, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Effectivement, selon la promesse qu'il avait faite, c'est ce qui s'est produit le jour de la Pentecôte, où l'Esprit de Dieu est répandu, vous le savez fort bien, sur ces quelques 120 disciples réunis dans la chambre haute. Et là, la foule s'est amassée au bruit qui eut lieu. Pierre a surgi des rangs, il a prêché, il a annoncé l'évangile avec une puissance particulière. Concernant la venue du Saint-Esprit, l'apôtre Pierre, au cours de sa prédication, ce jour mémorable de la Pentecôte, a fait ce commentaire. Jésus, élevé à la droite de Dieu, a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a envoyé comme il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Il fallait qu'il soit crucifié, il fallait qu'il soit ressuscité et il fallait qu'il soit glorifié pour que l'Esprit vienne. Dans le dernier repas qu'il a pris avec ses disciples, Jésus dira, « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Alors c'est sûr que pour ces 12 hommes, tout au moins 11, puisque Judas n'était plus dans le coup déjà, pour ces hommes qui l'avaient suivi pas à pas pendant 3 ans et demi environ, c'était une surprise désagréable que de s'entendre dire des lèvres même du Seigneur qu'il allait partir. Mais Jésus les a rassurés en disant, « Mais si je m'en vais, je vous enverrai le Consolateur. » Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et c'est vrai, aujourd'hui nous sommes au bénéfice de cette promesse, voyez, l'apôtre Pierre dira toujours dans ses textes du livre des Actes, la promesse est pour vous, amen. D'abord il dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux que le Seigneur appellera en aussi grand nombre qu'ils soient. Et désormais, nous sommes au bénéfice de cette promesse. Amen. Nous croyons au Saint-Esprit. Et nous croyons à la réalité, à l'actualité du baptême dans le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Je vous en prie, frères et sœurs, Ne perdons pas de vue cette doctrine capitale de la parole de Dieu. Voyez, le Saint-Esprit, ça n'est pas une espèce de joujou, de gadget que Dieu nous accorderait pour nous récompenser de nos bons et loyaux services. Non, le Saint-Esprit, c'est cette personne éminemment divine qui vient d'abord nous régénérer, et puis ensuite qui, au travers du baptême dans le Saint-Esprit, nous communique la puissance, l'énergie, la vitalité, l'assurance nécessaire pour servir le Seigneur et pour être ses témoins. Gloire à Dieu. Et il nous faut toujours, 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 toujours revenir à cette vérité, cette injonction, cette exhortation de l'apôtre Paul qui disait « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Ah, il faut chercher ces choses-là, voyez. Peut-être, même certainement, parmi nous, il y en a beaucoup qui ont vécu un temps formidable. Souvenez-vous de ce jour où peut-être le pasteur a prié pour vous. Et voici que vous avez parlé en langue, ce fut un moment merveilleux. Ou tout simplement dans votre chambre, alors que vous étiez en prière, l'Esprit de Dieu est venu et vous avez vécu cette expérience glorieuse. Loué soit le Seigneur pour ce point de départ. Mais il ne faut pas que ce point de départ soit aussi un point final. Il faut qu'il y ait un prolongement, il faut qu'il y ait une continuité, il faut qu'il y ait un développement dans cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Soyez remplis chaque jour que Dieu fait, au jour le jour, soyez remplis du Saint-Esprit. Mes frères, mes sœurs, cherchons ces bénédictions qui sont en abondance auprès de Dieu, nous en avons, par les temps qui courent, impérativement besoin. Croyons, demandons et recevons, avec une abondance toujours plus grande, la grâce du Seigneur, parce que nous sommes devenus des disciples de Christ. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, je vous fais grâce de la lecture, le Seigneur dira que le Saint-Esprit, le Père Céleste, le donne à ceux qui le lui demande. Le demandez-vous journellement. Est-ce là, je vous interroge, votre prière? Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Je dis, vous ne pouvez pas faire sans. Si vous voulez avoir une vie chrétienne, et moi aussi conséquente, une vie chrétienne porteuse de fruits, une vie chrétienne efficace, une vie chrétienne qui ait un impact puissant dans ce monde, dans votre entourage, dans votre famille, sur votre lieu de travail, il nous faut impérativement être remplis du Saint-Esprit. Telle est la condition, mes amis. Ces 120 qui étaient dans la chambre haute, c'étaient des gens aux yeux du monde sans importance. Ils n'avaient ni le pouvoir, ni le savoir, ni la richesse, mais l'Esprit de Dieu est descendu et ils ont bouleversé le monde de ce temps-là. Alléluia. Et lorsqu'ils arrivaient quelque part, on disait, ces gens-là qui ont bouleversé le monde sont venus aussi parmi nous. Qu'il en soit ainsi, que nous soyons plus modestes, que nous bouleversions au moins la ville d'Annecy. Ce serait pas mal, qu'en pensez-vous, hein? Qu'on puisse dire, ah, dans cette église de Pentecôte, là-bas, 4 rue de Seyssel, il se passe quelque chose, Dieu est à l'œuvre. Et mes amis, cela ne se fera que dans la mesure où vous et moi, je vous assure, je m'implique, nous serons remplis du Saint-Esprit. Je ne veux pas d'une petite vie chrétienne rabougrie, ratatinée, misérabiliste. Je crois que Dieu a davantage à nous donner. Qu'en pensez-vous ? Je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas comblé de ce que je vis. Et je vous avoue, il y a une grande frustration en moi parce que je dis, Seigneur, il y a tellement plus, il y a tellement mieux à recevoir et à vivre. Remplis-nous, remplis-moi de ton esprit, Jésus, du haut du ciel où il se trouve actuellement. Répands le Saint-Esprit sur ses disciples. Amen. Alors, il ne s'agit pas de dire, ouais, tout ça, c'est bien beau. Il faut passer à la pratique et il faut entrer dans cette dimension. Et puis, du haut de son ciel, Jésus, eh bien, exerce le ministère de souverain sacrificateur. Il est le grand prêtre de la foi chrétienne. Vous savez, dans l'Ancien Testament, la période qui précède la venue de Jésus, il y avait tout un système. Il y avait d'abord le peuple. Puis il y avait les sacrificateurs, on pourrait les appeler de second rang, et il y avait enfin le souverain sacrificateur. Lui seul entrait dans le lieu très saint, n'est-ce pas, et encore une fois par an, lui seul était revêtu de cette dignité-là. Mais aujourd'hui, le système de l'Ancien Testament est renversé. Nous sommes tous à égalité, nous sommes tous des sacrificateurs. On parle du sacerdoce universel et le souverain sacrificateur qui demeure pour l'éternité, c'est le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas ? Seigneur Jésus-Christ, le seul, le vrai, écoutez-moi, le seul, le vrai souverain pontife. Suivez mon regard, c'est lui, Jésus, n'est-ce pas ? Établi dans le sanctuaire céleste. Dans l'épître aux Hébreux, tenez, vous pouvez lire avec moi, tournez donc les pages de votre Bible. Hébreux chapitre 9, verset 11, il y a, d'ailleurs, toute l'épître aux Hébreux nous parle de ce thème-là, mais on va en extraire quelques textes. Il est dit ceci, Hébreux chapitre 9, verset 11, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de la main de l'homme, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. » Autrefois, dans l'Ancien Testament, j'y reviens, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, dans le tabernacle terrestre, avec le sang des animaux qui, au préalable, avaient été offerts dans le parvis, n'est-ce pas ? Mais ce système-là, nous l'avons déjà dit, a été balayé par la venue de Jésus. La loi a été accomplie, ce qui était en devenir dans l'Ancien Testament est accomplissement dans le Nouveau Testament. Et Jésus, en tant que souverain sacrificateur, n'est pas entré, nous l'avons lu, dans un sanctuaire, dans un tabernacle terrestre, mais dans un tabernacle céleste, dans le lieu très saint par excellence. Et là, Il est allé porter le témoignage et manifester les effets de son sacrifice accompli sur la terre des hommes lorsqu'il fut crucifié au calvaire. Il est notre représentant. Amen. Il est notre avocat. Il est notre intermédiaire. Il est notre médiateur exclusif auprès du Père en tant que Fils de l'homme glorifié. Là-haut dans le ciel, nous avons un homme glorifié, mais un homme malgré tout, en même temps, Fils de Dieu, donc Dieu lui-même, et en même temps, Fils de l'homme, un homme glorifié qui nous représente et qui prie le Père en notre faveur. C'est tellement vrai que lorsque Étienne, eh bien, juste avant d'être lapidé, a eu cette vision, il dira « Voici, je vois le Fils de l'homme debout à la droite de la majesté divine. » Jésus est glorifié, alléluia. Et l'Écriture dit qu'il intercède, il prie pour nous. Hébreux chapitre 7, verset 25, je vous fais grâce de la lecture. « Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant. » pour intercéder, c'est-à-dire pour prier en leur faveur. Vous vous rappelez que Jésus a prié pour Pierre? Vous vous rappelez ça? Pierre qui était plein de présomption. « Oh Seigneur, quand bien même tous les autres t'abandonneraient, te laisseraient tomber, moi, jamais. En prison, s'il le faut, je te suivrai jusqu'à la mort. Je serai fidèle. » Et Jésus a dit, « Pierre, Pierre, tu ne sais pas ce que tu racontes. Avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. » Et puis il a soutenu Mordicus que non, 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 on allait voir ce qu'on allait voir. Mais Jésus a ajouté, « Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras retourné, eh bien, c'est toi qui affermiras tes frères. » Et je crois que si Pierre, après ce passage à vide, après, hélas, ce triple reniement, a pu néanmoins se ressaisir et revenir au Seigneur, ça, c'est le résultat, c'est l'effet des prières de Jésus en sa faveur. Vous savez quoi? De la même manière que Jésus prie, a prié pour Pierre autrefois, il prie pour nous. Il prie pour chacun d'entre nous. Vous qui êtes convertis depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, voire plus peut-être, ne pensez pas que si vous êtes encore solide dans la foi, si vous avez pu rester fidèle au Seigneur durant tout ce temps, c'est parce que vous avez trouvé en vous-même suffisamment d'énergie, suffisamment de détermination, suffisamment de conviction et de foi pour aller jusqu'au bout. Non, c'est la grâce de Dieu qui vous a tenu debout. Et la grâce de Dieu, elle s'est manifestée en retour de l'intercession du Seigneur Jésus en notre faveur. J'ai prié pour toi, Pierre. Eh bien, à la place de Pierre, vous pouvez mettre votre nom et moi le mien. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Avouons, et je veux le reconnaître, moi le premier, qu'il y a eu des moments dans notre vie spirituelle, n'est-ce pas? Dans notre parcours où nous n'avons pas été tellement glorieux, n'est-ce pas que c'est vrai? Avouons qu'il y a eu des moments qui nous laisse un espèce d'arrière-goût amer. C'est vrai, Dieu a fait grâce. Dieu a pardonné. Le sang de Jésus a été répandu sur cette affaire. N'en parlons plus, il a pardonné. Mais lorsque nous pensons à cela, nous disons, « Seigneur, vraiment, j'ai vraiment pas été à la hauteur. Mais tu m'as fait miséricorde. Et après m'être éloigné, j'ai pu revenir. C'est toi qui m'as récupéré. C'est toi qui m'as récupéré in extremis. C'est toi qui, lorsque j'étais sur la lame du rasoir ou sur la corde raide, comme vous voulez, et que je pouvais tomber, chavirer du mauvais côté, c'est toi qui as étendu ta main secourable et qui m'a arraché à ma propre détresse spirituelle. Et tu l'as fait, Père, en réponse à l'intercession de Jésus. Là-haut, Jésus prie pour nous. Amen. Il n'est pas inactif. Il n'est pas inoccupé, c'est vrai. Lorsque nous le suivons dans les pages de l'Évangile, vous avez remarqué que Jésus était extrêmement actif. C'était un grand travailleur. Tôt le matin, il était en prière. Tard le soir, il priait pour les malades, il prêchait l'Évangile, il chassait les démons. Mais depuis qu'il est dans le ciel, mes amis, il n'a pas pris la retraite. Il ne s'est pas installé confortablement dans un fauteuil en disant, « Voilà, c'est bien, je finis mon job. » Maintenant qu'il se débrouille, non, il intercède pour nous. Il prie en notre faveur. Il est notre souverain sacrificateur. Et puis, il exerce sa compassion en faveur de ses disciples. Parce qu'il sait ce que c'est que de vivre sur la terre. Il n'ignore rien de nos combats, de nos luttes, de nos épreuves. C'est pas facile des fois. Dites-moi que c'est pas facile. Ou alors il n'y a que moi. Pour vous, ça coule. Ça baigne dans l'huile. La vie est un long fleuve tranquille. Non, c'est pas comme ça. Il faut se battre. Il y a la tentation. Le diable, on ne veut pas le voir partout, mais quand même il existe. N'est-ce pas? Il multiplie les tentatives pour nous faire chuter, pour nous décourager, pour nous persuader qu'il vaudrait mieux abandonner la course, que c'est trop dur d'être chrétien. Il y a des combats, il y a des épreuves, il y a des tentations, il y a des larmes. Jésus sait cela. Parce que la Bible dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Vous entendez? Tenté comme nous en toutes choses. Croyez pas que le diable a fait de cadeaux. Croyez pas que Satan a dit, c'est le Fils de Dieu, je ne vais pas m'approcher. Non, non, non. Il a mis la pression. Il a mis toute la gomme qu'il a pu pour essayer de le faire chuter, tenter, éprouver comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Et la parole de Dieu nous dit, dans Hébreux chapitre 2, verset 17, que, ayant été tenté ou éprouvé, le mot est le même, dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Il me comprend. Il sait par quoi je passe. N'est-ce pas? Je ne peux pas dire, tu comprends rien. Tu n'as pas vécu ce que je vis. C'est le contraire. Il l'a vécu. On l'a lu. Il a pris forme humaine. Sa condition était une condition parfaitement humaine. Il me comprend. Il compatit. Il souffre avec moi. Et il vient secourir. Il vient délivrer, alléluia, ceux qui se confient en lui. Je peux m'en remettre à lui. Je peux répandre mon âme. Je peux épancher mon cœur. Je peux lui dire, Jésus, Jésus, toi, mon souverain sacrificateur établi dans les lieux célestes, interviens en ma faveur. Secours-moi dans ma faiblesse, dans mes combats, dans mes luttes, dans mes tentations, dans mes épreuves. Sois avec moi, tire-moi d'affaire. Et il exauce ce genre de prière. Gloire à Dieu. Et puis, en tant que souverain sacrificateur, il nous permet aussi d'être introduit directement et personnellement dans la présence de Dieu. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure, dans l'Ancien Testament, un seul sur des millions d'individus pouvait entrer, et encore une fois par an, dans le lieu très saint. Dans le tabernacle, il y avait ces deux parties. Je pense que la plupart d'entre vous, vous savez cela, le lieu saint, le lieu très saint. Dans le lieu saint, les sacrificateurs officiaient journellement. Dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur, lui seul, une fois par an, avait le droit d'écarter le rideau. Et avec beaucoup de crainte et de respect, il entrait dans la redoutable et glorieuse présence de Dieu avec le sang des animaux qui avaient été offerts en sacrifice. Là, il aspergeait avec ce sang le propitiatoire qui recouvrait l'arche de l'Alliance. Et puis, il sortait de là. C'était fini. Pour une année, pour une année. Lui seul, une fois par an, le voile était là. Mais quand Christ est mort, rappelez-vous, l'Écriture nous dit dans le Nouveau Testament que le voile a été déchiré. Amen. Depuis le haut jusqu'en bas, sur une initiative divine, les historiens disent que c'était un voile extrêmement épais, de plusieurs centimètres d'épaisseur. C'était pas un voilage comme on en met devant les fenêtres, non. C'était quelque chose de massif. Et Dieu a tranché, a ouvert. Ça voulait dire maintenant, au travers de Jésus, vous pouvez, vous pécheurs, par la foi en lui, entrer jusque dans le lieu très saint. Ce n'est pas pour une élite, ce n'est pas pour quelques-uns, ce n'est pas pour une caste religieuse, mais c'est pour tous les véritables enfants de Dieu. Tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, leur Sauveur, n'est-ce pas? Le voile du temple a été déchiré. Approchons-nous avec assurance, dit l'Épître aux Hébreux, du trône de la grâce, pour être secouru dans tous nos besoins et pour retrouver grâce et obtenir miséricorde. Approchez-vous, frères et sœurs. Ne restez pas dans le parvis. Ne restez pas en dehors. Mais approchez-vous. Quand il y a un culte comme ce matin, approchez-vous du Seigneur. Ne vous contentez pas d'être spectateur, d'écouter les prières, les louanges, en disant, tiens, celui-là, il prie trop longtemps. Ah, celui-là, il crie trop fort. Celle-là, on l'entend même pas. Non, 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 n'ayez pas cet état d'esprit négatif. Approchez-vous du Seigneur. Faites monter vers lui votre louange. Joignez votre adoration à celle des anges et puis à celle aussi de vos frères et sœurs. Approchez-vous, revêtus, couverts par le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Approchez-vous, il veut vous accueillir, il veut vous recevoir. Et quand bien même ici ou là vous sentiriez votre indignité, dites-lui, Seigneur, tu vois, ça n'a pas été brillant dans la semaine. Pardonne-moi, Seigneur. Ces propos déplacés que peut-être j'ai eus, ces pensées misérables que j'ai entretenues dans mon esprit, ces actes qui n'ont pas été tellement à ta gloire, Seigneur, fais-moi miséricorde. Et le sang de Jésus purifie de tout péché. Approchez-vous, la route est tracée, la voie est ouverte, le voile a été déchiré. Jésus est votre grand souverain sacrificateur. Il vous permet, il nous permet d'être introduits directement et personnellement dans la présence du Père. Qu'est-ce qu'il fait encore là-haut dans le ciel? Eh bien, il exerce sa responsabilité d'être la tête, c'est-à-dire le chef de l'Église, qui est son corps et dont nous sommes les membres. N'oubliez pas ceci, c'est que l'Église n'est pas une structure humaine. Ce n'est pas comme le club de pétanque du quartier, ça c'est humain. C'est une association, c'est des gens qui partagent un intérêt commun, et puis voilà, ils ont décidé de se réunir et de faire quelque chose ensemble. Mes amis, l'Église ce n'est pas notre initiative, c'est celle du Seigneur. Il l'a suscitée par son propre sang, c'est son corps. C'est son corps. Et je le disais, je crois, récemment, à ce titre, l'Église doit être éminemment respectée parce qu'elle est respectable. Même si toujours son comportement n'est pas aussi net que ce qu'il le faudrait, ça demeure le corps de Christ. Dites-moi, quand il y a un de vos membres qui vous crée du souci, c'est pas pour autant que vous allez dire, « Allez, je vais régler l'affaire. » Passez-moi une hache là, ou une scie, hein. Et puis où? Non, 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 c'est votre corps, et vous en prenez soin, et vous faites bien. Christ aime son Église. Vous avez remarqué? Tiens, je trouve ça très particulier. Dans les lettres de l'Apocalypse, à quelle Église Jésus témoigne-t-il le plus de son amour? À l'église de Laodicée. Il dit, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Cette église de Laodicée, qui n'était pas brillante, mais pas brillante du tout, Jésus est obligé de faire ce constat, tu es tiède. Tu es tiède alors que tu devrais être bouillant, mais en même temps qu'il lui adresse ses reproches sévères, cet avertissement, si tu en restes là, je te vomirai de ma bouche. Jésus lui témoigne de son amour. Christ aime l'Église dans sa globalité, mais aussi chaque assemblée locale en particulier. Tenez, nous parlions des lettres de l'Apocalypse et on voit que Jésus se soucie, s'intéresse à chaque communauté locale. Il s'intéresse à l'église de Smyrne, de Philadelphie, à l'église d'Éphèse, à l'église de Laodicée, donc à toutes les autres. Et il s'intéresse à la nôtre. Il est le chef de l'Église. La tête du corps, nous sommes les membres. Il la dirige, il la conduit, il l'entraîne en avant. Par sa parole et par son esprit, il travaille au sein de l'Église pour la faire comparaître, nous dit l'Épître aux Éphésiens, un jour devant lui, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Combien le Seigneur est patient. Amen. Avec vous, avec moi, avec l'Église, avec les Églises, depuis 2000 ans, à l'égard de l'Église, je ne parle pas là du monde, à l'égard de l'Église, le Seigneur Jésus-Christ, tête et chef de l'Église, eut de patience, de bonté, de grâce et de miséricorde. Il a la foi. Alléluia. Il croit, lui, que même si ce n'est pas toujours comme ça devrait être, il saura finalement, gloire à Dieu, la faire comparaître devant lui, sainte et irrépréhensible en sa présence. Du sein de cette Église aussi, dont il est le chef, et c'est aussi son ministère, sa fonction actuelle, il suscite des vocations, voyez, dans l'Église. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 11, il y a un passage significatif, Éphésiens, chapitre 4, verset 11, il nous est dit ceci, « Il, Jésus, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, c'est-à-dire enseignants, pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire des croyants, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Il suscite des vocations diverses. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, de vous expliquer ce matin avec précision ce que c'est qu'un apôtre, qu'un prophète, qu'un évangéliste, qu'un docteur, un pasteur, selon la parole de Dieu. Mais enfin, voilà, le Seigneur a établi des ministères dans l'Église. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Eh bien, parce que son but est que chaque croyant soit rendu apte au service et qu'ainsi, lui, Christ, s'exprime au travers des membres de son corps que nous sommes. Le Seigneur Jésus continue à agir sur la terre, vous comprenez? Mais il n'agit pas, comment dire ça, il n'agit plus directement, il agit au travers des membres de son corps que nous sommes. Et pour que chaque membre exerce sa fonction, le service auquel il est appelé, l'exerce correctement, il a établi des ministères, prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes, pasteurs, etc. Voyez-vous, il suscite des vocations. Et, petite parenthèse, prions pour que cela soit, qu'il y ait de nombreuses vocations. Vous savez ça? On a besoin que du sein de nos églises se lèvent des gens remplis du Saint-Esprit, qui exerceront ces ministères-là. Le besoin est grand, vous savez, besoin est grand. Déjà, quand Jésus était sur la terre, rappelez-vous, devant les multitudes, son cœur était ému de compassion parce qu'il voyait ces gens comme étant des brebis abattues, languissantes, sans berger. Et il dira à ses disciples, qui pourtant étaient déjà dans l'affaire, déjà engagés dans le ministère, il leur dira, priez, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson, car la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Déjà Jésus faisait ce constat, il y a peu d'ouvriers. Eh bien aujourd'hui, il y a encore moins d'ouvriers. Hein? Et le besoin est grand et il nous faut prier ainsi qu'il nous l'a ordonné pour que la situation change. Il est la tête, il est le chef de l'Église dont nous sommes, nous, les membres. Et puis, je terminerai par là, Jésus, là-haut, il est allé nous préparer une place. Alléluia. Auprès de lui. Et il s'apprête à venir bientôt. Bientôt. Chercher son Église. Jean chapitre 14, verset 1er. Je vais vous préparer une place. D'abord, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Bien sûr, ils étaient tristes, ces disciples. Il leur avait dit, je m'en vais. Comment tu t'en vas, Seigneur? Mais ce n'est pas possible, on ne veut pas que tu pars. Que votre cœur ne se trouble pas. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, là-haut, au ciel, et que je vous aurai préparé une place pour vous, pour chacun de vous, eh bien je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous en savez le chemin. Thomas, qui ne comprenait jamais rien, celui-là, dit, Seigneur, quoi? Comment on connaît le chemin? Et Jésus lui a répondu, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je vais vous préparer une place. Amen. Il nous prépare une place et il nous prépare pour la place qu'il nous a préparée. Vous me suivez? Il nous prépare une place et il nous prépare pour la place qu'il nous a préparée. Il vient bientôt. Ce sera, comme dit l'Apocalypse, le festin des nains, des noces de l'agneau. C'est-à-dire la réunion de l'Église, l'ensemble des disciples de Christ, de tous les croyants qui ont été rachetés par le sang de Jésus. Tous les croyants de toutes les générations et de tous les pays seront rassemblés en sa glorieuse présence. Tous ceux qui auront persévéré fidèlement jusqu'au bout, ils seront mis au nombre des vainqueurs. Dans l'Apocalypse, dans les trois premiers chapitres, il y a 7 promesses qui sont faites aux vainqueurs. Vous les lirez. 7 promesses aux vainqueurs. À celui qui vaincra, je donnerai. 7 promesses. Alors quand on lit ça, on se gratte la tête. On se dit, ouais, mais problème, est-ce que je serai au nombre des vainqueurs? Je ne me trouve pas si vainqueur que ça. Je ne me trouve pas si super que ça. Je ne me trouve pas au top de la forme spirituelle. Serais-je au nombre des vainqueurs? Seigneur, cette parole, c'est une promesse, mais en même temps, elle est redoutable, elle me fait trembler, parce que ce ne sont que les vainqueurs qui seront récompensés. Oh, rassurons-nous, ça n'est pas impossible d'être vainqueur. Pourquoi? Parce que dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, Jésus nous parle d'être plus que vainqueur. Comment est-ce possible? Eh bien, parce que le texte auquel je fais référence, Romains chapitre 8, versets 37 à 39, nous dit que, eh bien, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est lui qui nous rendra vainqueurs. Vous comprenez ça? Notre faiblesse est grande. Pas la vôtre? Vous n'avez pas conscience, vous, de votre faiblesse? Oh, Seigneur Jésus. Mais je vous assure, quand je suis dans mon bureau, il n'y a pas de pasteur. Il y a un pauvre homme, un petit disciple de Jésus, qui est souvent mis, confronté à sa propre faiblesse. Mais si je suis faible, je veux croire que lui, il est fort pour deux. Pour lui et pour moi. Et que sa force, il veut me la communiquer. Pour que je sois, pour que je reste effectivement au nombre des vainqueurs. Quelle que soit notre maladresse, quelle que soit notre indigence, ah, si nous nous jetons aussi souvent que nécessaire aux pieds du Seigneur en lui disant « Seigneur, secours-moi !» Il nous fera miséricorde. Alléluia. Il nous fera miséricorde. Il nous fera grâce. Et nous serons mis au nombre des vainqueurs. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Vous voyez qu'il a du travail dans le ciel, Jésus. Hein? Voyez qu'il en fait des choses. Hein? Bref rappel, il envoie le Saint-Esprit, il est le souverain sacrificateur, il est la tête, le chef de l'Église, et il est allé nous préparer une place et s'apprête à venir bientôt nous chercher pour nous prendre avec lui, que son nom soit béni. Prions-le, s'il vous plaît. Amen. Merci, Seigneur.